Super, c'est parti.
Bon, Julien, bonjour. Julien Blaine.
Salut Pascal,
nous
ça va?
Nous sommes à Blois.
Oui.
Exceptionnellement, c'est pas chez toi, mais c'est un petit peu chez toi, puisque c'est dans l'espace qui était réservé pour l'exposition Al Dente. Et donc, ça va être le quatrième volet du travail que j'ai fait avec Bernard Etzig, Joël Hubot et puis Christian Prigent. Donc voilà, je vais commencer un peu par l'origine des choses, parce qu'on s'est rencontrés dans les années 80-81 à Tours, et j'ai le souvenir très précis d'une performance que tu avais fait sur l'ABCDR avec ton corps, et je trouvais que c'était... j'aime bien cette expression, j'avais été saisi par cet instant, parce que c'était tout à coup pour moi la découverte de... Bon, j'étais évidemment bien plus jeune, et j'avais été saisi par cette... cet espace de liberté qu'en fait que tu proposais, cette générosité, et cette énergie qui venait aussi du souffle, enfin du souffle de la respiration sur laquelle je pense que tu as toujours travaillé. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine en fait de ton travail sur la poésie?
Oui, le souffle ça vient un peu après. En fait, au départ de cette histoire, c'est comme toujours des grands hasards, donc c'est clair que le livre est enfermé, que ce résidu très important qui est le livre reste un résidu. Ce qui est important, c'est ce qui est avant le résidu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant que le texte soit dans le livre. Ça, c'est la première chose, donc se poser la question de savoir comment on sort du livre ou comment on fait que ça ne rentre pas que dans le livre. Donc je me posais beaucoup cette question et j'essayais d'y répondre. Et par rapport à ça, je me suis aperçu en même temps que quand on analyse l'histoire de la poésie depuis des millénaires, c'est toujours un acte qui est également un acte oral et encore plus corporel que oral. C'est-à-dire qu'on peut regarder n'importe quoi, les pré-islamistes, les Chinois, Tang, les troubadours, il y a un rapport comme ça qu'on sent très bien dans l'oralité et dans la corporalité. Je veux dire, c'est pas pour rien que les troubadours, on les appelle aussi les jongleurs. Donc j'étais dans cette histoire-là, donc on est au début des années 60, au tout début des années 60, on essaie de travailler un groupe là-dessus, en même temps on a un rapport aux signes, pour savoir comment on peut sortir également de l'ABCDR, de l'alphabet dont tu parlais, et cette performance était ça. Et donc j'étais dans cette double problématique, à savoir, est-ce qu'on écrit qu'avec des mots, qu'avec des lettres, ou est-ce qu'on peut écrire autrement, puisqu'on était passé à un autre système de reproduction par l'impression, qui était l'offset, qui permettait beaucoup plus de liberté. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du résidu livre en amont ou en aval? Voilà. Et donc là, je rencontre un livre qui a été pour moi très important, qui est le bestiaire d'Apollinaire. Et dans ce bestiaire d'Apollinaire, illustré par Dufy, il y a tout ce rapport aux animaux. Et en même temps, ce rapport aux animaux a une cadence qui revient sans arrêt sur Orphée, avec tout le mythe d'Orphée, de la poésie, etc. Donc moi, ce rapport aux animaux déjà commençait à m'intéresser énormément. Et en même temps, le mythe d'Orphée, ça m'intéressait un peu moins. Enfin, le mythe de l'amour m'a toujours un peu agacé, ça m'a toujours un peu ennuyé. C'est une thématique très poétique, mais que je n'emploie pas aux guerres et qui m'intéresse très 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 peu. Voilà. Et donc je me retrouve à ce moment-là, en 62, avec un cirque qui arrive, qui est le cirque Franqui, dans lequel il y a des éléphants. Et donc là, j'ai vraiment cette idée, tout de suite, d'interviewer les éléphants par rapport aux animaux. Donc de refaire un nouveau bestiaire, mais où l'orphisme serait éléphantin. Et donc je commence à travailler les animaux, j'ai fait un questionnaire très compliqué avec des questions par rapport aux animaux, par rapport à la jungle, la forêt, tout ce que tu voudras. Et je prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Évidemment, l'éléphant n'a aucun rapport avec moi, il s'en fout complètement. Donc il ne répond pas à mes questions. Au contraire, de temps en temps, il me coupe la parole avec un barrettement terrible, etc. Et puis de temps en temps, j'entends un lion qui hurle derrière. Voilà, c'était bien. Puis je rentre chez moi. Et puis, bon, comme tu vas faire bientôt, je retranscris. Et c'est le début du magnétophone, 62, j'avais un vieux Philips avec deux vitesses, vois, trois vitesses. Je change les vitesses, à ce moment-là, moi, je fais... Et les femmes, oh, oh, oh. Et voilà, donc du coup, je me suis aperçu qu'il y avait une possibilité, non seulement de dire, de faire, mais d'écriture, tu vois. Donc je me suis retrouvé tout de suite dans cette idée qu'il fallait montrer la poésie. Non seulement l'écrire, non seulement l'imprimer, mais montrer la poésie. Et là, je suis parti sur une filière qui s'est arrêtée, comme tu le sais, quand je dis « bah, la perf », en février 2005, donc tout à fait récemment, mais où mon implication corporelle était de plus en plus forte dans la chute, dans l'exhibitionnisme, dans tout ce que tu voudras, dans la souffrance. Et je pense vraiment que pour que le poète écrit ait sa valeur, il faut qu'à l'amont, il y ait une vraie force orale, une vraie force corporelle, et surtout un vrai investissement. Ce qui est important, c'est l'investissement. Tu vois, de temps en temps, il y a 6000 personnes, alors je me lance comme une bête, et puis il y a une personne, et ma vie en dépend quand même. C'est pas, le rapport au public est très important, mais ce qui est vraiment important, c'est le rapport d'investissement. Voilà. Et donc là, tout ça, c'est cette idée, comment je me suis impliqué sans arrêt, et de plus en plus dans le corps, comme la performance chute, où je dégringole tous les escaliers de la gare Saint-Charles, qui sont innombrables. Et donc c'était une chute qui n'en finit plus, et quand j'arrive en bas, bon, je n'ai rien du tout, parce qu'il y a un miracle à un moment donné où tu te fais pas mal et quand les caméras se viennent sur moi, je fais chut. Donc tu vois, jouer non seulement le jeu de mots sur la parole, mais le jeu de mots physique par rapport à ça. Donc là, je pourrais t'en citer des milliers, comme celle dont tu parlais tout à l'heure, sur comment les lettres sont amputées pour se transformer, le G qui devient le C, G, avec toc, ça disparaît, G, C, G, en même temps, G, C, c'est pas rien, quoi, voilà. Et à ce moment-là, parallèlement à ça, il y a toute cette histoire incroyable où d'un coup on rend au poète le manuscrit. C'est-à-dire que moi, les dadaïstes et les futuristes, ce sont des génies. Les cubistes comme Apollinaire sont des génies. Parce que quand tu fais de l'imprimerie typographique, tu as des règles qui n'en finissent plus. Tu as la règle du talus, tu as la règle de l'œil, tu as la règle de la graisse, tu as la règle... Ça n'arrête pas. Donc comment tu peux arriver, ou à représenter ce que tu as vraiment écrit, ou à vouloir transformer par l'impression ce que tu voudrais que les gens lisent, que le lecteur lise. C'est impossible, la typographie c'est très compliqué. Néanmoins, bon, il y a les poèmes en liberté, tout ça. Et là arrive l'offset. Tu vois. L'offset, c'est comme après on verra les autres transformations qu'on est en train de vivre en ce moment. L'offset permet d'identifier exactement ce que tu veux faire. Donc évidemment que si tu dis, maintenant je monte. Hop, tu coupes parce qu'il y a une larme, parce qu'il y a une sang, enfin, puisque tu peux représenter tout ce que tu veux. Donc il y a d'un coup une ponctuation, une augmentation, une atténuation de la chose écrite qui devient le vrai poème. Et donc là, je commence à faire Dox et le tour du monde de ces poésies. Où là, j'ai donc ce problème de montrer que le poète est en liberté totale par rapport à la revue, par rapport au livre, qu'il a le droit de reproduire ce qu'il veut, qu'il a le droit surtout de reproduire ce qu'il veut reproduire, et qu'il a le droit de faire imprimer ce qu'il veut faire imprimer, et que ça ne doit pas passer par des prismes de déformation qui sont des règles. Et donc je vais être une espèce de poubelle absolue de tout ce qui se passe au monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux également montrer par rapport à Dox, c'est qu'on n'est pas dans l'innocentrisme parisien de la rue Sébastien Botin. D'un côté, il y a tel quel, enfermé sur lui-même, enfermé sur le ghetto du Gotha culturel parisien, et de l'autre, il y a cette force énorme d'un réseau international qui va se propager à travers le monde, puisque non seulement on parle comme ça entre nous avec ce réseau qui n'en finit plus, mais certains pays à cette époque, on est à la fin des années 70, on est obligé de parler comme ça, parce qu'il y a des pays totalitaires en Amérique latine, et qu'il y a des pays totalitaires dans ce qu'on appelle, jadis, l'Europe de l'Est. Donc, on est petit à petit acculé à cette espèce de communication secrète dans des enveloppes, dans des colis, qui va devenir le réseau du mail art avec des mecs comme Rich Johnson, Edgar Antonio Vigo et moi, etc. Et donc nous, on va être une espèce de cheville ouvrière, de place forte où les choses vont se transformer et communiquer entre elles. Voilà, et donc à partir de ces deux pistes, je vais commencer vraiment à travailler donc l'investissement corporel, l'investissement vocal, la force de la voix et du corps dans la poésie, et la beauté de pouvoir transformer les choses qu'on doit reproduire pour le lecteur ou pour l'auditeur ou pour le spectateur. Et quand tu es attentif à ça, c'est-à-dire que toutes les nouvelles inventions qui vont arriver, on va immédiatement les capter pour s'en servir. C'est la chose dite ou la chose faite reste la chose dite ou la chose faite. Mais on va pouvoir être attentif à l'arrivée de la vidéo, à l'arrivée de la cassette, à l'arrivée de la toile, à l'arrivée d'Internet, etc., etc. C'est pour ça que cette poésie est toujours et reste ouverte sur le monde et reste moderne parce que, quel que soit le dire et le faire qu'on a à faire et qu'on a à dire, on reste sans arrêt ouvert sur ce qui va se passer par rapport aux nouvelles technologies. Voilà. À partir de ça, donc, avec ces deux constatations, donc, je suis attentif à comment reproduire ce que j'ai à dire et à faire. Je m'investis de plus en plus avec mon corps et ma voix et mes gestes. Et je me dis, mais pourquoi on a si peu de puissance, hein? Pourquoi on transforme si peu les choses? Pourquoi en étant aussi investi, aussi sincère, aussi dur, aussi radical, pourquoi on ne change rien par rapport au pouvoir politique, tu vois? Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est là où je commence à réfléchir sur les grandes écoles qui ont essayé, elles aussi, de transformer le monde, tu vois, cette espèce de comportement humain. Et là, tu aperçois que ça dure toujours 2 siècles. Tu vois, tu prends les Tang en Chine, c'est 2 siècles. Tu prends la Renaissance en Europe, c'est 2 siècles. Tu prends les troubadours dans tout le sud de l'Europe, c'est 2 siècles. Et l'avant-garde, c'est pareil. L'avant-garde, elle démarre pour les uns avec le coup de deuxième à l'armée, pour les autres, pour moi notamment, avec le livre de l'armée, qui est enfin dans sa version originale, grâce à Marshall, en 96. Et donc avec ces deux trucs-là, tu te dis, bon voilà, donc on est à mi-parcours, hein, 1896, et puis les futuristes, et puis les dadaïstes, on va mettre entre parenthèses les surréalistes, et puis Cobra, et puis Fluxus, et puis nous, voilà, voilà. Donc tout ça, ça fait qu'on est à mi-parcours. Et alors, on se dit, et c'est là où je me dis, bon, il faut qu'il y ait, qu'est-ce que c'est, maintenant qu'on est dans une forme, on sait qu'on doit renouveler les trucs, comme je viens de t'expliquer, comment on fait pour que ça change, et comment ça se fait que ça ne change pas? Et pourquoi j'ai pas la mémoire, puisque j'ai la mémoire livresque des avant-gardes, pourquoi j'ai pas la mémoire du corps, pourquoi j'ai pas la mémoire de la voix, pourquoi j'ai pas la mémoire de la gestualité? Comment ça se fait ça? Pourquoi on a que la mémoire du livre et de l'écrit? Alors évidemment que les livres n'existaient pas tout le temps, mais ils existent quand même depuis très longtemps. Et là tu t'aperçois qu'il y a eu un véritable génocide. Il y a eu des barbaries ignobles comme la Shoah, comme les Amérindiens des États-Unis, mais il y a eu un génocide réussi qui est l'Inquisition catholique. Et tous ces gens qui étaient comme moi, qui avaient des petits secrets pour danser, pour se transformer parce qu'ils criaient, pour se transformer parce qu'ils bougeaient sans arrêt, qui se transformaient parce qu'ils faisaient des soupes ou des potages un peu différents, ce qu'on appelle des filtres ou de tout ce que tu voudras. Tout ça, ils ont été brûlés vifs. Donc cette mémoire a complètement disparu. Donc à ce moment-là, je me mets dans un troisième travail, qui est comment je peux travailler pour retrouver ces secrets simples, qui vont peut-être faire transformer les choses, tu vois. Et donc je commence à faire des livres comme sur les Bamileke, donc qui est un peuple au nord du Cameroun qui a une spiritualité grandiose. Avec mon ami Jean Monod, on commence à m'expliquer, à travailler sur les Piarois, qui sont une tribu indienne au confluent de l'Amazone et de l'Orénoque. Et puis voilà, on commence à réfléchir à tout ça, et je commence à réfléchir à tout ça. Et là, je m'aperçois qu'en fait, l'humanité, en tout cas nous, le Sapiens Sapiens, on a 50, 100 000 ans, 150, 200 000 ans, et qu'en fait, on est complètement sous le terrorisme du monothéisme depuis 6 000 ans. Et depuis 6 000 ans, on vit que là-dessus. Et en ce moment, on vit dans une période, par rapport à ça, qui devient absolument hystérique et barbare. On a de côté l'hégémonie américaine avec un évangéliste fou et hystérique, Poutine qui vient de se convertir à l'orthodoxie intégriste et fou, et en face, tu as l'administration juive et l'administration de l'imam d'Al-Qaïda, qui sont également des hystériques monothéistes, dont tu vois le phénomène le plus fou quand il y a des suicides collectifs, qui ne sont pas des suicides animistes, hein, ils sont toujours par rapport à un Dieu unique. Voilà. Et donc tu relis la Bible comme cet environnement-là, et tu t'aperçois en effet que c'est écrit dès le premier jour. Dès le premier jour, il y a la prophétie des eaux d'Ézéchiel, où Dieu dit à Ézéchiel, va dans le désert, rassemble les eaux, mets-leur des nerfs, mets-leur de la viande, mets-leur de la peau, et il dit, ouais, mais ça reste crevé. Mets-leur l'Esprit divin. Ah oui, ça y est, bouge, tu as vu, c'est une armée redoutable. Donc, c'est ça, hein, le monothéisme, c'est de créer des armées redoutables pour avoir un pouvoir total. Voilà, donc ma poésie, en dehors de tout ce que j'ai à dire, elle a peut-être, dans ce mi-parcours de l'avant-garde, cette chose à faire.
Justement, donc, ce que tu as à dire.
Ben, ce que j'ai à dire, c'est vraiment ça, tu vois. Je veux dire qu'il y a, d'une part, sur le fondamental, je veux dire, avec... en essayant d'être très 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 loin du ridicule, très loin, très très loin du fanatisme, en s'occorque que, comme disent tous les poètes russes, poète ne doit pas avoir peur du ridicule. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on regarde vraiment les choses, comment se débarrasser du monothéisme, parce que se débarrasser du monothéisme, c'est se débarrasser de toutes les puissances politiques contemporaines, qui sont des puissances hégémoniques, totalitaires, et complètement folles et hystériques. Et tout en dépend, je veux dire, la façon dont l'air n'est plus conditionné, la façon dont la pollution est de pire en pire, c'est toujours des gens qui sont dans cette perspective-là d'une domination absolue. Alors maintenant, il y a la domination au nom de la démocratie. Bon, dans la démocratie, ça veut dire que Bush doit être élu par 5% de la population américaine, quand je ne suis pas certain, mais peu importe. Et en plus, ça marche, je veux dire, ça marche, parce qu'il y a des coïncidences qui sont troublantes comme celle-ci. Et puis, à partir de ça, la plupart des gens qui savent que je travaille là-dedans, donc des vrais savants, m'ont demandé d'aller voir des grottes, etc. Et donc il y a des grottes. Et d'un coup, je me suis aperçu que ce qui était l'écriture, l'image de l'écriture, ce n'est pas Lascaux qui est quasiment contemporain. C'est antérieur, c'est rugnacien, c'est-à-dire il y a 35 à 40 000 ans, où il y a une grotte à Cazelle, où tu rentres comme ça, ce que je raconte, puis c'est que je fais tous les ans, l'endroit où j'en suis cette recherche s'appelle l'école de la cinquième feuille. Donc tu rentres dans une grotte par un boyau. Tu vois bien l'image, hein. Tu remets ça à la proportion d'une femme, tu rentres dans un boyau, tu arrives dans une matrice, avec de l'eau jusqu'aux couilles, et tu regardes partout, et tu as partout ces mamelons, en fait, tu es vraiment dans la matrice. Et à ce moment-là, il t'allume, parce qu'on est dans, évidemment, le noir absolu, tac, tu vois une vulve, deux vulves, trois vulves, tu vois que des vulves. Et là, tu t'aperçois en effet que cette image-là, parce que c'est là où là, quand même les monotypes sont très intelligents, cette image-là qui est l'image de l'origine, on va la retrouver dans toutes les façons d'être spirituel. C'est-à-dire que tu vas la retrouver avec la feuille chez les grandes cultures premières africaines, la plume chez les grandes cultures premières amérindiennes, l'œil et le poisson chez beaucoup de cultures monothéistes, et alors que l'origine, c'est simplement la vulve. Et donc, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, en retrouvant la façon dont ils ont décrire, c'est-à-dire si c'est des amputations, les mains positives ou les mains négatives, si ce sont des opérations chirurgicales, c'est simplement une gymnastique un peu difficile à établir, avec les doigts que tu caches ou que tu caches pas, c'est clair qu'il y a un langage là. Mais moi, je suis pas Champollion, j'ai pas la même disposition comme il avait lui, ce génie absolu, un maximum d'écriture et un maximum de langues. J'en ai trois ou quatre, encore pas trop. Donc je ne travaille pas sur la traduction, je travaille sur l'intuition. Je me dis, ah ben, mais j'essaie, et c'est vrai qu'en dehors de ce que j'ai à dire, j'essaie de savoir ce que disaient les sources de l'humanité. Tu vois, mais avec mais léger, tu vois, modeste, pas du tout, ouais, je ne suis pas, faut pas, j'espère que personne ne me regardera jamais comme un mec qui, non, pas du tout, j'essaie de dire, voilà, regarde comment la feuille se transforme selon les saisons, et voilà, et regarde là, tu vois, un mur entier où les mains sont effacées. Et puis il y a toujours ce rapport, alors, tu vois, dans la grotte du poisson, tu as le saumon, tiens, il y est là, et puis tu as la main de l'enfant, ah, il y a aussi la main, tu vois, et petit à petit, tu retrouves comme ça, sans arrêt, ces images-là, qui petit à petit, tu vois, de transformation en transformation, jusqu'à aujourd'hui, nous arrivent à l'écriture, est-ce qu'on a à dire.
Mmh. Et donc c'est un rapport... C'est un rapport artistique et charnel par rapport à la matière, par rapport à la matrice.
C'est-à-dire qu'en effet, ce qui est très intéressant quand tu essaies de retrouver une source à l'avant-garde après avoir essayé de retrouver les secrets de la disparition de notre mémoire corporelle, notre mémoire gestuelle, notre mémoire vocale, en effet, tu t'aperçois qu'on parle de ça, on parle du rapport à la femme, du rapport à la nature, et ce qu'on a complètement perdu depuis 6000 ans avec ces livres magnifiques, mais qui sont des livres absolument terrifiants, que sont la Bible, les Évangiles, le Coran et les autres livres dits sacrés. C'est ça qui se passe. Donc comment on peut retrouver, en effet, une écriture autre, une littérature autre, par ce que j'ai envie de raconter. Et ce que j'ai envie de raconter, c'est ça, j'ai dire qu'on a des... Voilà, donc arrêtons toutes ces simagrées, parlons d'amour, parlons-en vraiment, mais parlons-en pas comme cette chose qui sont l'union de deux êtres, et hop, on retourne aux évangiles et tout ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ce rapport existe. Et c'est là où tu t'aperçois que chaque fois que nous, on a une image, nous, avec tous les guillemets que tu veux, une image renaissienne, un rapport comme ça, il s'en sert immédiatement, tu vois, les grandes images de la chrétienté, ça reste quand même la parturiente, ou la femme enceinte, ou la vierge avec son bébé, ce qui n'est pas du tout dans les textes. Dans les textes, c'est l'or, ce que je raconte tout le temps, il devrait montrer un os décharné, qui est vraiment la source même de la renaissance, et pas du tout de la procréation, comme on pourrait le faire. Et puis à partir de ça, il y a aussi tout ce rapport, alors, dans ce que je n'ai pas à dire, qui est pour moi passionnant, c'est-à-dire de faire des livres, de faire des expositions, et de me servir de nouveaux outils, et de parler, etc. Parce que je ne suis pas complètement coincé là-dessus, hein. Comme toujours, il y a plusieurs chantiers ouverts en même temps. Donc ça, c'est un chantier qui est un chantier pour moi très important, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis dedans, mais je suis un chantier où j'essaye d'être lyrique, c'est-à-dire jusqu'où tu peux aller dans la confidence, c'est le vrai lyrisme. Ou à partir de quel moment tu as tellement honte de ce que tu dis que tu ne veux pas le dire. J'ai fait un livre avec Laurent, justement, qui s'appelle Pagure, donc Pagure c'est Bernard l'Ermite, hein, c'est celui, boum, qui se rend comme ça, où dans mon âme c'est tellement odieux ce que je raconte que j'ai mis encore trois, donc parfaitement illisible, mais le marque-page c'est une loupe, donc si tu veux vraiment le lire, tu peux le lire. Donc tu vois, donc il y a cette piste-là, donc il y a la piste, qu'est-ce que c'est vraiment le lyrisme, pas le lyrisme imbécile de Jean-Michel Maulepoix ou de tel autre crétin, mais un vrai lyrisme, c'est-à-dire pourquoi je dis ça au lecteur, pourquoi j'ai pas honte, pourquoi je suis dans une pudeur comme ça, tu vois, donc ça c'est un truc qui m'intéresse. De la même façon, mais ça, c'est à nouveau le rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est comme un poème épique, tu vois. Donc, je fais la traversée des États-Unis. Là, ça s'appelle Calmar. Et je raconte qu'est-ce que c'est que ce peuple de fous complètement, tu vois, où il y a des gens d'une richesse que tu ne peux pas imaginer, des organisations de misérables qui fouillent. Il y a le premier qui fouille les poubelles en premier, puis il y a un autre groupe qui va les fouiller en second. En fait, on est aux États-Unis, on n'est pas au fin fond d'Afrique, le pays le plus riche du monde, vraiment les pauvres les plus importants, les plus incroyables du monde. Voilà, donc là, je pense à dire ça, voilà, le voyage c'est aussi ça sert à raconter ce que c'est que l'épique. Et puis en même temps, un autre chantier qui est toujours greffé sur le voyage, c'est que je voulais montrer que la poésie, elle disait ce que je disais. Que donc j'ai fait le tour du monde avec ma revue, comme tu le sais, Docs, où j'ai toujours montré que la poésie qui existait, qui était forte, qui était la poésie vivante, c'était celle dont je parle. Et donc je suis allé en Amérique latine, je suis allé en Chine, je suis allé en Russie, je suis allé dans le monde entier, en Australie, tout ce que tu voudras, pour montrer que c'est cette poésie-là qui était vivante, et pas les petits trucs enfermés dans les textes, et qu'enfermés dans les textes. Et au début, quand tu faisais ça, comme Bernard te l'a dit, il y avait des tas de gens qui nous prenaient pour des fous de vouloir sortir la poésie du livre. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul poète, même les plus secrets, qui dirait « non, non, je ne veux pas lire ». J'ai fait lire à Tarascon, lui, René Desforêts, j'ai fait lire à Tarascon, André Duboucher, pour parler de deux êtres. Et Louis-René Desforêts, c'est la première fois qu'il lisait. Et c'était extraordinaire. Hein. Voilà. Donc on a réussi, en effet, avec le travail de Bernard et le travail de Jean-Jacques Lebel, le mien, à faire sortir tout le monde, finalement, du livre. Tout le monde. Donc ça, c'est encore, voilà, ça, c'est encore notre chantier. Et puis, donc, j'étais toujours en train de travailler, comme sur plusieurs chantiers. Là, je travaille encore sur notre phase lyrique, qui s'appelle les confidences d'Églantin, où j'essaie de raconter, des trucs de temps en temps. Donc, j'ai toujours cette espèce de basculement entre une forme que j'essaie de la plus moderne possible, mais avec un dire qui soit réel, tu vois, donc la réalité de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à dire, confronté à une forme qui vient d'arriver, ça m'intéresse beaucoup. Et l'autre part, c'est qu'est-ce que c'est que les grandes formes de la poésie, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, au début du troisième millénaire, qu'est-ce que c'est que le lyrisme, qu'est-ce que c'est que la poésie épique, ça m'intéresse aussi, tu vois. Et voilà, donc je suis toujours, et en même temps, j'ai dit, bon, mais comment on fait pour que ça soit utile? Alors qu'on sait très bien, là, au moment même où je te parle, je sais que c'est idiot, que c'est parfaitement inutile, que ça sert strictement à rien, que je suis un crétin de parler comme ça, que tout ce que je fais est complètement débile. Mais on reste toujours dans l'utopie de croire, malgré notre conviction de l'imbécilité, de croire qu'on va changer les choses, mais on est comme ça. On continue à croire, depuis que la poésie existe, à dire qu'on va peut-être bouger deux ou trois bricoles. On ne bouge rien. Mais voilà, le problème qui fait que nous bougeons, c'est qu'on croit qu'on va bouger. Mais c'est vrai, c'est pas possible. J'arrête pas de dire que nous travaillons dans une poésie de la désespérance et d'une inutilité parfaite.
Oui, quand tu dis que ça bouge rien, je suis pas si convaincu que ça, parce que quand on rencontre des gens qui ont découvert soit la poésie sonore ou la poésie action, on s'aperçoit que ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur des gens, quoi. Les gens, encore hier soir, je discutais avec des gens qui n'avaient jamais vu ni de lecture, ni de Bernard, ni de toi, ni de Charles Penquin, et qui découvraient, qui étaient tout à coup, avaient un autre regard, de toute façon, ça c'est sûr. Et la question que je me posais dans ton travail, à te lire et à t'entendre et à te voir, puisque je crois que tout est imbriqué, quoi. C'est un seul bonhomme, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comment dire, une précision, une justesse du mot qui est aussi dans son élément originel. Chaque mot est toujours employé dans son sens original, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a perdu ou qui est dévoyé, alors peut-être évidemment par les médias, la presse, enfin tout ce qu'on peut lire, y compris par la littérature et la poésie. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'autre poésie, on va dire.
À la queue leu-leu.
Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette précision très forte.
Ah oui, non, mais je vais faire un livre entier là-dessus, qui s'appelle Bimo. Donc il y a un mot en haut et un mot en bas. Et les deux mots sont séparés par un trait fin et un trait gras, un filet comme ça, un double filet. Et j'essaie simplement de montrer comment un mot en haut et un mot en bas séparés par cette ligne, qui est exactement comme la ligne d'horizon, donc qui devient une conjonction de coordination. C'est-à-dire que la ligne d'horizon est en effet une conjonction de coordination entre là et là, entre ce que tu voudras et ce que tu voudras, et notamment entre le cosmos et cette planète. Et dans cette page-là, donc cette ligne d'horizon devient une conjonction de coordination entre le mot d'en haut et le mot d'en bas. Et il se passe des choses incroyables, tu vois, c'est des additions, c'est des soustractions. Mais quand tu le dis, par exemple, aorte oasis, ça ne dit rien, mais quand tu vois aorte en haut, le filet, et oasis en bas, tu vois, d'un coup, il se passe un monde. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup travaillé sur le mot. Et à partir de juste des planches comme ça, avec juste un mot en haut et un mot en bas, après, j'essaie de raconter avec 5 ou 6 pages, juste une série comme ça, etc. Et ça, c'est un livre, pour moi, c'est drôle que tu parles de ça, parce que pour moi, c'est mon livre essentiel. Mes éditeurs ne sont jamais d'accord, mais je pense, moi, il y a celui qui préfère celui-là, celui-là, moi, c'est le livre dans lequel je pense que j'ai vraiment touché à quelque chose de vraiment très important, qui avait été précédé par les poèmes métaphysiques, qui étaient sur la même forme. Mais tantôt il y avait une image, tantôt il y avait un mot, tantôt il y avait une phrase, tantôt il y avait une image, ça changeait sans arrêt. Là, c'est juste un mot en haut, un mot en bas. Et là, c'est vraiment très important. Mais je ne suis pas le seul, il y a quand même... Tu vois, le Genet a dit, pour bouger les choses, il faut des mots. Il en faut au moins deux. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Ou Ségalène qui dit, le sage qui a dit, c'est sans doute Confucius, mais ça on pourra en reparler tout à l'heure de mes tatouages. Le sage qui a dit, celui qui monte une route et celui qui descend une route, descend peut-être la même route, n'a pas dit quelque chose d'inutile. Tu vois. Putain, c'est quand même donc que je fais route et route, et je dis après tu te démerdes. Non, c'est vrai que c'est très très important. Et moi, là, je pense que tu as touché un point très 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 essentiel de mon travail, c'est essayer vraiment de mettre le mot à sa place, à sa juste place, même s'il est tout seul. Et là, quand il est tout seul, ça a vraiment très très bien fonctionné.
Oui, parce qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas, moi, ce que je ressens quand je te lis ou quand je t'écoute, c'est ça, c'est vraiment, on touche tout à coup, on a l'impression de rentrer dans une espèce de matrice, effectivement, le mot que tu employes juste, une matrice intellectuelle et peut-être un peu sémantique, en fait, où on rentre vraiment à l'intérieur des mots, qu'on ne rentre pas... c'est pas, je dirais, une simple lecture. Et justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ça ne change pas les choses, je crois que les gens le ressentent, ça. Et c'est ce qui fait que ça touche obligatoirement au fond, ça touche dans sa propre matrice. Et donc effectivement, on est dans un processus unique, je pense, chez toi par rapport à ça. Parce qu'on est touché par d'autres processus chez d'autres artistes, comme je pense à Joël Hubot ou à Bernard Hetzig, où c'est pas la même démarche en fait, on est touché mais pas pareil. Et la confrontation, moi, chaque fois que je l'ai vécue, elle est toujours très forte parce que c'est trois processus différents.
Quatre, parce que Christian, c'est vraiment très différent.
Christian, oui, je pensais aussi à Christian, j'ai oublié. Et on est dans quatre processus dans la forme différents et dans le fond, on est dans la même chose.
C'est exactement ça. Les formes sont très différentes, mais en fait, ce qu'on veut, c'est le bouleversement, vraiment. Et ça, on le sent très bien sur les quatre. Il y a en plus des moments où tu sens comme ça des rapprochements. L'histoire du lapin de Christian Prigent qui change de voix comme ça quand il a peur du lapin, c'est un moment qui est un moment où on sent d'un coup les quatre sont rassemblés là. Il y a des moments comme ça, c'est vraiment très très fort, très beau. Hein.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, ça c'est un truc qui m'était apparu quand j'ai rencontré Christian et Bernard à l'abbaye d'Ardennes, je crois que c'était, il y a quelques années maintenant. Donc toi je te connaissais, Joël aussi. Cette espèce de... Donc je ne les connaissais pas, si tu veux, donc, mais il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, entre nous cinq, hein, moi étant de loin le plus jeune, et une espèce de je ne sais pas si on peut appeler ça une osmose, c'est plus que ça, c'est quelque chose de ressenti.
Non, c'est passé quelque chose, mais moi je sais, la première fois que tu nous as réunis tous les quatre, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et que chaque fois, en plus, c'est vrai que quoi qu'on fasse, et on est tous saturés en ce moment, quoi qu'on fasse, on a toujours cette idée que peut-être on va retrouver, c'est pour ça que c'est très important, qu'on va retrouver ce moment-là. Et quand j'ai fait Bye Bye la Paire, puisque j'ai fait une tournée qui a duré quasiment un an, là, tu vois, la charte traînée, pour dire, bon, ça y est, je ne vais plus me blesser, je ne vais plus me mettre à poil, je ne vais plus faire toutes ces conneries-là. Donc j'ai invité chaque fois, dans toutes les villes où je suis allé, mes amis pour qu'ils m'accompagnent, tu vois. Donc il était clair que Christian serait là, Bernard serait là, même deux fois, Joël serait là, donc selon les endroits où je suis passé. Et là, dans le livre Bye Bye la Paire, il y a le DVD, donc, on a fait 50 heures, puisque Marie, ma fille, m'a filmé pendant tout ce temps-là. On a fait une heure et demie, et ça s'ouvre sur Joël, évidemment, qui se moque de moi, parce que c'est fini. Voilà. Non, c'est vraiment, c'est un bon groupe, ces quatre-là. Parce que c'est ça qui est formidable, c'est que vraiment, en effet, tu peux en trouver d'autres, mais tu vas voir la dépendance, ou la polarité, etc. Mais là, vraiment, c'est quatre mondes différents, et tu sens que quand même, ces quatre mondes sont imbriqués les uns dans les autres.
Moi, c'est une question que je me suis toujours posée depuis que je vous connais, enfin depuis que je connais tous les quatre, c'est de savoir pourquoi peut-être mon inconscient a choisi ces quatre artistes-là comme espèce dans une espèce de première partie de mon panthéon essentiel et vital. Et je me suis toujours posé la question, et le fait de faire ces conversations avec les artistes et de terminer par toi, où j'ai la réponse en fait aujourd'hui. Et je ne l'avais pas quand j'ai commencé avec Bernard, tu vois. Donc j'ai eu Bernard, Christian et Joël. Et la réponse, en fait, elle vient à la fin par toi. Ce qui est quand même assez...
Je suis assez d'accord.
Hein, en fait, le hasard fait qu'il n'y a pas de hasard. Quoi. Les choses sont assez... sont tellement évidentes. Hein.
Ah ouais, tu verras le DVD, c'est assez clair là-dessus aussi. Tu verras vraiment, tu vas voir tout le monde. Et en plus, parce que c'est ton monde, en fait, ton patron, comme tu dis, qui est... Tu verras tout... tu verras tout ton monde, tu verras tout ce que tu voudras, mais là, d'un coup, tu vas voir que, pour moi, c'est assez incroyable, qu'il y a un moment où vraiment ça se passe par rapport à ces trois-là. Puisque moi, évidemment, je suis encore le monsieur loyal, entre guillemets, de cette histoire. Mais tu verras que vraiment, la ponctuation de ce DVD, c'est Joël qui attaque, Bernard qui est le grand mouvant, et Christian qui va faire un truc derrière la librairie Chan à Paris sur le lapin, qui est absolument éblouissant. Voilà.
C'est vrai qu'on touche quelque chose de... de très précis aujourd'hui, qui à mon avis est essentiel, c'est justement tout ce qu'on n'a pas appris, je dirais, à l'école, notamment dans ce qu'on appelle la poésie, j'ai plus envie d'appeler la récitation, puisqu'en fait il s'agit plus de récitation. Et j'ai coutume de dire, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas ces gens-là dans les écoles pour parler de poésie?
Non, mais très peu dans les facultés, on nous invite beaucoup dans les écoles d'art. Je parle de la France, ailleurs c'est très différent, fort heureusement. Mais en France, moi je suis invité dans 2 ou 3 facultés à tout casser, la quasi-totalité des écoles d'art. Il faut vraiment que les profs de français fassent partie de cette poésie-là pour qu'on soit invité à faire un truc dans une école. Donc ça arrive, fort heureusement, il y a quand même des profs de français qui sont intéressés par ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est excessivement rare, excessivement rare. Et c'est vrai que quand tu fais ça, les mômes, tu vois, ils n'ont pas envie d'aller jouer au football pour une fois. Ils ont envie de rester, ça les intéresse. Moi je me rappelle un truc à Bordeaux, donc j'ai un prof de français comme ça. Qui s'appelle Patrice Luchet, où il faisait chaud, c'est l'été, donc j'ai commencé mon truc dans la classe de Patrice Luchet, et c'était la récréation pour les autres, parce que je n'avais pas fini. Et les mecs ne sont pas partis en récréation. Et petit à petit, la récréation est arrivée vers les fenêtres, comme ça. Et c'était absolument magique, tu vois. Donc j'avais 40 mômes devant moi, et j'en avais 300 qui se crasaient contre les fenêtres. Donc c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'important, mais je crois que c'est à dessein, hein. C'est quelque chose qui est dangereux quand même. Oui, oui. Et donc, comme tu dis, c'est vrai que ça bouge peut-être à ceux qui écoutent, mais qu'il faut quand même qu'on reste dans une proportion satisfaisante, sinon ça devient très dangereux. C'est... Donc à ce moment-là, en effet, on ne va pas enseigner ça tout le temps, et surtout pas à tout le monde. Mm-hmm. On ne verra jamais des hauts personnages politiques ayant du vrai pouvoir dire « tu sais, moi je arrête le conseil, là il faut que j'aille voir ». Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que quelque part je suis très pessimiste. Parce qu'ils sont dans l'inculture. Et tous ces gens-là qui gouvernent, qui sont des grands patrons hégémoniques du monde, sont dans l'inculture totale. Dans l'inculture totale. C'est ça qui fait que... Bon, ils sont cyniques, barbares et criminels. Mais par inculture, plus qu'autre chose. Et quand ils se réfèrent à quelque chose pour faire croire qu'ils sont cultivés, c'est les sources monothéistes. Donc voilà, ils sont là, ils sont tranquilles, ils ont Dieu pour eux, donc tu peux assassiner tranquillement en Afrique, tuer qui tu veux, torturer machin, faire ce que tu as à faire, c'est pas un problème. Dieu te pardonne, et au pire, s'il te pardonne pas, tu auras confesse.
J'avais en fait, dans mes petites listes de questions, j'avais noté quelques mots, et notamment le mot « politique ». Je trouve que tu as un engagement politique très fort, mais voilà. pas politique comme on l'entend évidemment.
Mais là, même au sens restreint du terme, je peux en parler, tu vois, parce que sens restreint du terme, comme tu le sais, j'ai été adjoint à la culture de Robert Vigouroux de février 89 à février 95, donc 6 ans, ce qui n'est pas rien. Et en 6 ans, quand tu es de ce côté-là, tu vois que tu peux transformer les choses, vraiment tu vois que tu peux transformer les choses. On était donc élus un ramassis de ce qu'on appelle des dissidents, donc il y avait des socialistes exclus, des communistes dissidents, 2 libertaires, dont moi, venu là parce que j'étais copain avec lui, parce que Robert Hugo est un pain du dimanche, mais pas qui fait des calanques, qui fait des pieds de mondriante, donc c'est quand même un personnage assez captivant. Donc il me donne la culture, il me met 3e dans le tableau, on peut faire beaucoup de choses. Et ce ramassis-là, février 95, il se réveille un jour en disant « Nous allons voter Balladur, mais... » Donc j'ai démissionné. Harry Bellet, comme ça, m'a fait une très belle page dans Le Monde qui s'appelle « Un acte éthique et esthétique ». Voilà. Et puis, donc j'ai toujours vécu depuis 95 à aujourd'hui, 2006, sur le rêve possible de remonter un pouvoir politique au sens strict du terme, c'est-à-dire une possibilité d'avoir du pouvoir dans une ville, pas au niveau départemental, ça m'intéresse pas au niveau régional, ça m'intéresse pas au niveau national ou européen, encore moins. Mais au niveau municipal, il y a vraiment là une possibilité de faire les choses. Et puis tu aperçois que non, maintenant c'est terminé. Cette liberté est complètement confisquée, tu le vois dans l'imbécilité royale Sarkozy, est complètement confisquée par les appareils. Donc ce qui va faire la politique aujourd'hui, ce n'est pas un homme de conviction, ce n'est pas un homme de désir, c'est un appareil politique. Voilà, donc ma prochaine exposition, celle-là, elle va aller à Marseille. Et le 14 octobre, à la Galerie du Tableau à Marseille, je fais l'exposition pour dire « bon, là, j'arrête, là, c'est pas la peine ». Je ne rêve plus qu'on peut remonter une structure qui s'appelait M comme Marseille. Et donc, je suis en Zorro, j'ai plein de masques de Zorro écrasés. Et ça s'appelle « Bye bye, bad boys, bye bye ». Voilà. Donc tu peux parler de ça de manière très très stricte. Pour le reste, on peut toujours avoir des convictions, essayer de faire des choses, essayer de rêver d'un appui qu'on pourrait donner, tu vois. Mais tu t'aperçois, quand moi je vois ce film sur la Tchétchénie, où tu vois un vieux brûlé vif et le petit garçon qui appelle son grand-père, tu vois ces histoires de poissons, absolument le cauchemar de Darwin, tu vois, et ça change peu, tu vois. Donc évidemment, le pouvoir politique, ça devient une chose qui est confisquée par trois ou quatre grandes puissances, à l'agachant l'une de l'autre, avec leurs obligés et leurs vassaux, hein. Ces espèces de faucons et de chiens qui sont, comme tu le sais, de bêtes faciles à apprivoiser pour la chasse. Voilà. Mmh. Donc non, c'est un monde auquel on ne peut plus appartenir, quel que soit le désir qu'on en ait.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, le processus politique n'est pas réinventé et peut-être de repartir de la source même, hein, comme tu dis toujours, de la matrice, hein, et de parler de ça. Et en fait, là, je crois qu'aujourd'hui, on a vu... Je dirais qu'on a pratiquement tout vu, tout vécu. Enfin, c'est le sentiment général qu'on veut nous donner, toujours. Et... Merde, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire.
Non, mais moi, j'ai compris. Mais bien sûr, Pascal, qu'il faut repartir du début, qu'il faudrait tout recommencer. Sauf que l'organisation est parfaite. Si on prend le cas de la France, puisqu'on est ici, la coordination qui s'est établie entre les médias et les appareils politiques, les médias, c'est-à-dire les vendeurs d'armes et les fabricants d'autoroutes, des gens qui dépendent directement de l'État, donc du gouvernement, donc du président de son gouvernement, donc de cette majorité-là, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Bon, si moi, elle est plus à l'État droite, ça serait de l'autre côté, ce serait pareil ou pire, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la coordination est parfaitement faite, parfaitement établie. Et que ce que tu vas faire là pour qu'on restaure tout ça, qu'on renouvelle tout ça, qu'on recommence tout ça, mais personne ne le saura. Mmh. Il y aura trois étudiants à toi, les quatre mecs qui verront ce média, les cinq mecs qui sont copains avec moi, 30 mecs sur Internet, tout le bordel, et ça sera fini. Il a fallu vraiment que les appareils aussi, quand tu vois le référendum européen, que des appareils s'inquiètent aussi du oui ou du non, pour que soient perceptibles les non extérieurs aux appareils, ou les oui extérieurs aux appareils. Mais s'il n'y avait pas eu les appareils qui prennent en charge, sur un référendum c'est facile, qui prennent en charge le oui ou le non, tu n'aurais pas eu ça. Aujourd'hui, tu prends en charge en disant non, il faut revenir à la cité, on ne peut pas laisser, etc., etc. Et puis il faut recommencer ça, puis faire des réunions, le rêve de mermer pour prendre les repères, les conneries comme ça. C'est pas possible. Lui, tu as 15h30, je ne sais même plus quelle audience il a. Tu vois. Mm-hmm. Non, c'est très très bien organisé. La coordination, appareil politique et force médiatique, je parle des vrais médias, je ne parle pas de Dox et de la vidéo de Pascal Boucher. C'est impossible, c'est impossible. Et en plus, c'est tellement fort qu'il dicte. Ils dictent la loi, y compris dans la culture. Donc tu vas avoir des médias qui sont un peu plus marginaux, comme Télérama ou les Inrecuptibles, ou je ne sais pas quoi, qui petit à petit va venir sur les mêmes bases, parce que, sans le savoir, le journaliste, il va être complètement investi, envahi par ça. Et on va parler de Houellebecq, pour parler de la littérature, de l'autre folle de Montpellier, et de la petite qui va pisser au Japon. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et alors, tu as besoin déjà plutôt honnête. Mais tu vois, ils sont bien obligés quand même de lire les machins. Si on parle que de ça, je ne vais pas faire un article sur Bernard Hetzig. Alors, tu as 3 ou 4 journalistes qui s'en foutent, ils le font quand même. Mm-hmm. Mais c'est vraiment des accidents. Hein.
Alors que je crois qu'aujourd'hui, il y avait justement dans Télérama un article sur la provocation. Qu'est-ce que c'était que la provocation aujourd'hui? Et je crois que la vraie provocation, elle est dans le fait de dire l'originel, en fait. Ça devient une provocation.
Mais écoute, c'est ça. Étonnant, le pape fait une intervention pour dire que l'islam ou l'islamisme, c'est la barbarie, se réfère à un philosophe allemand et tout ça. Et l'islam, évidemment, monte au filet, mais personne ne dit, mais attendez, c'est pas Mahomet qui a inventé ça. C'est à l'origine de la Bible. C'est la prophétie des eaux. Tu t'aperçois que même les théologiens, entre eux, ne se renvoient pas la balle, que tout le monde rentre dans les cultures et dans la méconnaissance. C'est là où ça devient fou. Donc on est face à ça, des gens qui sont des crétins absolus, mais qui ont un pouvoir absolu, et qui le manient avec cynisme et avec confiance de un jour se référer à Dieu si jamais ça tourne mal.
Ça me fait penser, je repense à la pièce que Charles Penquin a lu hier soir, il dit « Je ne suis pas européen ».
Je
me souviens de du livre « Je ne suis pas américain » et en fait, tu as pensé que c'est la même chose.
La même chose. Et en plus, je le dis ça, je ne suis pas européen. Le texte dit « Je ne suis pas américain limited », je ne suis pas européen, je ne suis pas européen copyright. Tu vois les trois marques, je ne suis pas américain, et je suis terrien, limited. Et américain, c'est trademark aussi. Et tu vois, il y a les petits logos comme ça que je mets dans le livre. Ah, ben là, là, il y a un texte magnifique, puisque c'est le drapeau américain de Massounias, tu sais, où il marque le nombre de morts que tous les génocides ont fait. Donc, voilà les nazis, voilà machin, voilà Genghis Khan. Mais l'administration américaine a eu le massacre le plus fort au monde, pour commencer sur la population amérindienne, et pour continuer aujourd'hui sur l'Irak, l'Afghanistan, et hier le Japon.
En fait, j'ai un peu l'impression que dans ce qui relie les quatre artistes dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être simplement de dire essayons déjà d'être humains avant d'être européen ou américain ou je ne sais quelle nationalité. Voilà.
Soyons terriens, hein, c'est la façon d'être humanité, c'est d'être terrien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est vraiment un fait commun à nous quatre, qui est très fort, c'est un investissement total. Il n'y a pas de solution, on n'a pas d'échappatoire. Aussi bien Joël Hubot que Christian Prigent, que Bernard que moi, il n'y a pas d'échappatoire. On n'a pas de choix. On n'a pas le choix. On est là-dedans jusqu'au cou.
Et jusqu'au bout.
Et jusqu'au bout.
Oui, c'est clair qu'on a ce sentiment-là qu'il y a une telle imprégnation, une telle force que ça s'arrêtera le jour où les uns et les autres vont. Quoi.
Alain Schiff, qui est un copain à moi, à venir. Je sais ce que je mettrai sur ta dalle. On sait enfin où il est. Parce qu'en plus, on est des colporteurs, tu vois. On ne peut pas rester là. Je suis à Blois, demain je suis à Marseille. Après, je reviens de Pavie où il y a une exposition magnifique, Et puis après, je vais aller au Soudan et ceci. Donc en même temps, il y a cette histoire-là. C'est que non seulement on est impliqué dans la façon de faire, d'écrire, de dire et d'être, mais en même temps, on est impliqué dans cette espèce de folie d'être des espèces de missionnaires hystériques de la poésie contemporaine. Et là, les quatre, alors vraiment.
Mais c'est clair et net. Et c'est quand même à la fois pour vous et je dirais pour nous une sacrée école, quoi. Parce que c'est, je crois, c'est ce qui devrait être la vraie école. Moi, j'ai toujours pensé depuis très longtemps que pourquoi est-ce qu'on commence pas à l'école pour enseigner aux enfants ? Parce que ça, c'est un truc qui m'échappe complètement et j'ai vraiment du mal à comprendre. Pourquoi on leur enseigne pas à commencer par les haïkus, par exemple ? Ce qui est basique, plutôt que de leur coller des fables de La Fontaine où on veut inculquer
le moral. La Fontaine, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est la chose la plus horrible.
Alors, c'est ce qu'il y a de mieux. Les fables de La Fontaine, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand tu vois Émile Verhaeren et Jacques Prévert qui te bassinent du matin au soir, c'est pire.
Oui.
Les fables de La Fontaine, il y a des trucs, notamment dans l'écriture, tu vois, qui sont incroyables. Un jour, je ne sais où, le héron, l'ombec, à manger de longs coups, paf, tu peux difficilement dire en moins de mots ça. Non. Comme disait Ponge, là, quand même, il y a ce type par rapport aux animaux comme l'autre par rapport aux objets, il y a une prise en compte considérable. Mais c'est le reste, c'est que là, c'est vraiment éprouvant.
Non, mais c'est clair.
En plus, que les membres, tu leur demandes de faire des haïkus, ils se régalent, ils comprennent tout de suite.
Ben oui,
c'est que cette scène, ils comprennent tout de suite.
Et je trouve qu'il y a ce grand. Il y a un vrai rapport entre l'haïku, donc, qui est là, juste du domaine de l'écrit, hormis quelques personnes qui s'y sont attachées dans la lecture et dans la mise en scène. Il y a un vrai rapport tout à coup avec la poésie action pour moi.
Oui, en plus, l'invention des haïkus, c'est ludique. Hein. C'est des mecs qui sont dans des auberges perdues et qui font des jeux et des concours, comme le Camiripon de Corse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, non seulement de ce que tu dis, mais improvisé. Hein. Il faut le dire deux fois, tiens, par hasard. C'est pour ça que je te redis par rapport au Bimou. Trois fois, ça serait absolument scandaleux, dit Barthes. Mais deux fois, sinon, on ne comprend pas bien le premier coup. Et on est tous, enfin, en tout cas, moi, tous les gens que je connais, ils ont au moins un haïku dans la tronche. Moi, je me rappelle, celui-là. Je lève mes yeux au ciel, l'arbre que j'abats, comme il est calme. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait la saison en même temps, que tu comprennes par rapport au haïku.
L'histoire du temps.
Et la saison et le temps. Non, c'est une forme magnifique. Et c'est une forme ludique, c'est une forme où les mecs rigolent entre eux. Ah ouais, j'en ai un autre, vas-y toi. Parce qu'il y a toujours ce côté tension, le tension du Moyen-Âge, c'est-à-dire ma poésie est meilleure que la tienne. Et ça existe aussi entre nous quatre. Hein. C'est très clair. Le côté de tension du troubadour, il est vraiment entre nous quatre très très fort. Il y a toujours ce type de concours. Le Lipo et le pavillon de la Grugeonne. Tu vois, tout se monte pour faire le plus beau poème du monde au pavillon de la Grugeonne et les mecs redescendent en larmes parce qu'ils n'ont toujours pas battu Lipo. Tu vois. Et je suis allé moi, mais je n'ai pas fait de poème parce que quand même, je ne vais pas lutter pas tout le temps. Hein. Mais le processus des tensions, ça aussi c'est une permanence dans notre relation nous quatre.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que tu as beaucoup travaillé sur la presse, sur l'édition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce
plan? Je veux dire, ça m'a accompagné toute ma vie. Dès que j'ai su écrire de la poésie, bon, ça c'était plutôt à l'école préparatoire, j'ai fait un poème, je dois avoir 8 ans et demi, qui est un des meilleurs que j'ai fait. Et donc tout de suite, j'ai tenu un journal, immédiatement. Et dans ce journal, évidemment, je disais beaucoup de mal de mon frère qui venait de naître et de mes parents, mais il y a beaucoup de textes comme ça, dont j'en ai gardé un ou deux, que je republie régulièrement. Et après, j'avais 15 ou 16 ans, donc immédiatement, j'ai fait une revue avec des amis de Toulon et de Marseille, ça s'appelait L'Éventail. Et le mec qui était à Toulon, c'était Antoine Simon, et c'est drôle parce qu'il a déménagé il y a un an, et il a retrouvé la maquette du premier numéro. J'ai dit, on l'a publié, tu vois. Donc on l'a publié, L'Éventail, aux éditions NEP, pour montrer ce que c'était. Donc dès le départ, il y a eu ça. Après, je suis étudiant en lettres à Aix, et immédiatement, je fais Les Canons Octéor, dont les histoires des éléphants dont tu as parlé au début, et cette nouvelle poésie sémiotique, je l'appelais, puisque le signe devait rentrer dedans. Et là, je reçois une lettre de Carmelo Hardenkin, qui venait d'arriver d'Uruguay à Paris, et qui me dit, il faut que vous travailliez avec nous, on va faire la revue ailleurs, etc. Et cette lettre, moi j'ai déménagé, cette lettre m'a suivi pendant un an, et au bout d'un an, j'étais vraiment en dessous de tout. En fait, je n'aurais pas dû vivre cette année de malheur, parce que j'avais eu cette lettre qui datait d'un an. Donc on a fait Ailleurs ensemble pendant 8 numéros. Dans Ailleurs est arrivé un jeune homme avec qui je me fâche, je me refais ami, je me fâche, je me refais ami. Là, en ce moment, ça va, on est ami, qui est Jean-François Bory. Et là, Jean-François Bory, on a fait Approche. Et là, donc, on est dans la période qui précède 68, comme le temps passe. Et donc, évidemment, il faut quand même qu'on dise à quoi ça sert tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport politique et un rapport révolutionnaire, parce que ça, c'était le langage de l'époque. Et là, Jean-François va faire L'Humidité et moi, je fais avec Jean Clé. C'est à la Y, il ne faut pas confondre avec Jean-Claire, la revue Robot et Alain Chiffre dont je te parlais tout à l'heure. Et cette revue va faire des numéros incroyables. Le premier dossier sur Goutaille, le premier dossier sur BMPT, Buren Mossé par Mathieu Toroni, le premier dossier sur Théâtre Garia, le premier dossier sur la poésie visuelle, ce qui tourne autour, etc. Donc, qui a été repris ensuite, on fait le dernier numéro en 68, qui s'appelle Quelques aspects dans l'art nouveau. C'est le jour où les trois noirs avaient gagné Mexico avec le gant comme ça. Donc, puis on a arrêté, et là, je suis 68, on a tout arrêté, on a perdu, on a été défait, on était minable, on n'avait plus qu'à mourir. En tout cas, moi, je n'avais plus que ça à faire. Donc, c'est une dépression, une vraie, tu sais, celle où il y a un ami qui te rattrape le soir, une femme qui te rattrape au petit matin, des enfants qui disent qu'est-ce qui arrive et tout ça. Donc, normalement, je devrais être mort, et finalement, grâce à cette amitié forte et à cette femme, je suis vivant. Et là, arrive du fond de l'Italie, mon frère, mon compagnon, Adriano Spatola, qui me dit « ça suffit maintenant, je suis ça suffit !» Ça souffrait. Je dis, mais tu m'emmerdes, tu vois, je peux pas reparler très facilement. Et je dis, mais non, ça ne suffit pas, j'en ai marre. Et on part en voiture à Vienne, pas à Vienne en Autriche, Vienne sur le long de l'autoroute. Et là, on commence à jouer au poker avec Julia, Nicolas, sa femme, sa compagne. Et on joue au poker, et je commence à boire le poker, petit tir. Je me réamorce par le jeu et l'alcool. Je me réamorce, comme une pompe. Et il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Le monde parle comme nous, tu vois, c'est pas parce que tu as perdu là qu'on a perdu partout. Et je pars en Amérique latine, je fais le numéro 1 de Dox. Et en effet, là, je me requinque complètement, tu vois. L'Amérique latine, ça part que comme ça. Il y a des actions, Tucumán Arde, par exemple, ils mettent les photos des patrons, parce qu'il y a trop de jeunes. Ça fait que les jeunes, pour rentrer dans l'usine, ils doivent marcher sur les portraits des patrons, tu vois. Donc, il y a plein d'idées comme ça, etc. Vigo, dans son réseau international, et Clemente Padin, avec son rapport, Kevin Harris, et Angelo de Aquin, toute l'Amérique latine parle comme ça. Donc là, on part. Et donc, je pars faire le tour du monde. Et après, c'est le Japon, et après ceci, après cela, et bien après, le tour du monde complet. Et voilà. Donc, Dox, comme ça, fait le tour du monde. Et puis, en 88, Adriano, donc je fais après, à un moment donné, je fais une formule un peu plus serrée, tu vois, avec un côté historique sur des moments magnifiques de la poésie. Donc, par exemple, Francis Ponge et le relais de la Mounine, René Char et les Galets, tu vois, des trucs un peu. Bon, rentrer dans cette poésie-là, c'est important quand même. Et puis au bout de 5 numéros, Adriano Spatola, celui qui m'avait sauvé la vie, meurt d'un infarctus du myocarde, comme ça. Alors, en baisant sa nouvelle campagne, sans doute. Voilà. Et donc là, je suis vraiment à nouveau, tu vois, je vois. Il y avait quelque part la Russie de Spatola, tu vois. Donc je redescends là, très fort. Et en tout cas, j'ai plus envie de faire Dox. Voilà. Et à ce moment-là, Philippe Castelin vient de faire une thèse magnifique en Sorbonne qui s'appelle Dox, mode d'emploi, où il raconte cette revue, cette période nomade. Et moi, et cette période-là que je viens de faire avec 5 numéros, plus théorique, plus carré, plus dogmatique, plus didactique en tout cas. Et je dis, ben écoute, vas-y, continue. Voilà, et il continue jusqu'à ce jour. Et là, je suis revenu de ce numéro qui vient de sortir à l'instant, là, avec un numéro très théorique, en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Il y a notamment un texte de Christian Prigent qui suit un interview de Pascal Boucher, qui va être un des trucs importants de ce numéro. Voilà. Donc j'ai toujours ce rapport du dire. Alors ça, c'est le... le côté éditorial de ma côté poésie, mais en 68, j'ai fait Géronimo, donc qui a été le journal de la Free Press à 40 000 exemplaires, hein, La Liberté sans réserve, avec le jeu de mots valise Géronimo, donc Géronimo anonyme, qui a été un journal absolument fantastique. Là-dessus, j'ai fait Pirate avec Jean-Claude Vernier. Pirate, c'était dire, bon, on peut pas être sur toutes les luttes, donc on va quand même vous raconter comment ça se passe, puisque eux, les mecs, ils luttent dans les usines et ailleurs, ils ne savent pas le faire. Donc on a fait La Voix des Corons avec l'affaire de Bruyère-Nartois, qui a fait couler beaucoup, 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 beaucoup d'encre. Le notaire qui aurait tué la petite Brigitte, enfin tout ce que tu voudras. Et après, on a fait une grève magnifique de femmes aux Nouvelles Galeries de Richemont-Thionville. Et là, Pirate s'appelait les Nouvelles Galères, parce que chaque fois, on changeait. La Voix des Corons, les Nouvelles Galères. Et après, on avait tellement de demandes, plein de sollicitations, que Jean-Claude et moi, on dit, ben, on va faire un quotidien, tu vois. Et voilà, on se met au travail pour faire un quotidien. Et Cécile Allais nous prête un local. Et Jean-Claude Vernier donc, avait fait l'agence Presse Libération, qui était une agence qui donnait les informations qui n'étaient pas données ailleurs. Et moi, j'avais fait Géronimo, ce journal de Free Press incroyable, qui était avec Zing, le parapluie, les journaux, puisqu'il y avait 3000 journaux de Free Press à l'époque, hein, qui dominaient un peu la situation. Et au numéro 1 de Libération, arrivent pour nous aider au manifeste Pierre Victor et Serge Julie. Et moi, les organisations, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, je dis à Jean-Claude, mais moi, si c'est la gauche prolétarienne, moi, je me casse, ça m'intéresse pas. Et toc, je me suis cassé. Et après, je suis revenu pour faire une rubrique qui s'appelle Jules Van, vrai art nouveau, c'est-à-dire l'art du boycott, du sabotage, du vol, qui a tenu pratiquement un an, mais j'étais revenu plus comme simplement pour coordonner cette rubrique, Jules Van, vrai art nouveau, qui a fait ensuite un livre chez Losfeld qui raconte tout ça avec des coups absolument géniaux. Et donc voilà, ça c'est mon côté presse. Et sinon, j'ai travaillé pendant quelques années dans la presse pour gagner du fric aussi, hein. Donc dans des vrais journaux comme Le Provençal à Marseille, comme Régie Presse qui était l'agence de Régie Publicis, comme Havas Régie qui était l'agence de Régie d'Havas, et comme le groupe d'Aluca où je suis rentré avant de démissionner de tout ça, d'arrêter cette vie, où j'étais directeur commercial de Paris Jour, nous deux, Intimité et la vie des métiers, et Télépoche. Voilà, mais ça c'est une biote, c'est ce qu'on appelait la vie alimentaire, et, qui était importante pour moi, mais à laquelle j'ai renoncé avec beaucoup de plaisir quand j'ai été élu à la culture de Marseille. J'ai gardé encore quelques temps la double fonction d'élu à la culture de Marseille et de directeur de notre journal avec Michel Butel, qui était donc le patron, parce que l'aventure avec Michel Butel était une aventure assez extraordinaire. On a fait des numéros, je les vois encore aujourd'hui, magnifiques, tu vois. C'était la première guerre de l'Irak, et la couverture était noir-rouge. La guerre, quelle guerre ? Un peu point métaphysique, genre bimo, mais c'était extraordinaire. Non, il y a eu des moments avec Michel absolument incroyables. Et puis après, il faut choisir, être directeur d'un journal à Paris ou adjoint à la culture de Marseille. Non, c'était trop beau. Hein. Adjoint à la culture de Marseille, c'était trop beau. C'était absolument trop beau. Et donc, je suis parti là-bas. Et depuis, je ne fais plus que des revues de poésie donc là, et des livres chez Aldante, et mon ami Laurent.
Bon, voilà, je crois qu'on arrive au bout de la cassette, là.
Pascal, je te remercie, moi. C'est un truc qui est symptomatique, je ne sais pas si les trois autres l'ont dit, mais c'est que vraiment, il y a un côté retrouvaille délicieuse. Ouais. Tu vois, chaque fois que je te retrouve et qu'on parle de ça, peut-être si on parle d'autre chose, sans doute aussi, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un côté retrouvaille délicieuse. C'est comme quand tu revois une femme que tu as aimée il y a 40 ans, tu la vois avec ses 15 enfants, son nouveau mari, tout le bordel. Il se passe quelque chose un peu comme ça, tu vois, qui n'est pas nostalgique, qui est plus compliqué. Il y a un moment comme ça, un moment de grâce, ils disent... les autres.